RFI, les 8h à Port-au-Prince et à Washington, 14h à Paris, 1h de moins en temps universel. Merci d'écouter RFI, dernière demi-heure de RFI Midi consacrée aux Amériques. Dans une dizaine de minutes, nous reviendrons sur le premier mois de Donald Trump à la Maison-Blanche, sa façon de gouverner, ses déclarations, ses décrets. Pour en parler, nous serons avec Françoise Coste, historienne, professeure à l'Université Toulouse 2, spécialiste de la droite américaine et du Parti républicain. Nous serons aussi en ligne avec Franz Duval, rédacteur en chef du journal Le Nouvelliste. En Haïti, on évoquera avec lui Port-au-Prince de nouveau et comme chaque jour secoué par les affrontements entre la police et les groupes armés. On aura aussi les titres de la presse avec Vincent Souriau et le journal des Outre-mer. Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour Alban. Nous parlerons tout à l'heure de l'adhésion aujourd'hui de la Martinique au CARICOM, la communauté des Caraïbes. Ça se passera à la Barbade.
Mais avant cela, place au journal.
RFI Midi.
C'est avec vous, Karine Bellicha, bonjour.
Bonjour Alban, bonjour à tous.
On ouvre cette édition avec une question. Dans quelle ambiance se déroule l'entretien en ce moment même entre le président ukrainien et l'émissaire américain à Kiev?
Après les déclarations au vitriol de Donald Trump qui estime entre autres que le président ukrainien est un dictateur, la rencontre Volodymyr Zelensky, Keith Kellogg peut-elle apaiser les tensions? Emmanuel Chaz, vous êtes en direct de Kiev. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Karine.
La mission de l'émissaire américain est pour le moins ardue.
Absolument. Alors Keith Kellogg avait averti qu'il était surtout là pour écouter et pour rendre compte de son expérience sur le terrain lorsqu'il rentrera à Washington. Alors on attend qu'il s'exprime sur sa visite et sa rencontre avec Volodymyr Zelensky dans les prochaines heures. Et nul doute que le dialogue s'est effectivement compliqué entre les deux hommes, suivant les nombreuses et les fausses accusations de Donald Trump à l'égard de Volodymyr Zelensky, de son taux d'approbation, de sa légitimité. On ne sait pas si Keith Kellogg a finalement accepté de sortir de Kiev pour se rendre compte de lui-même de la situation près de la ligne de front, comme Zelensky le lui avait proposé. Mais en tout cas, il s'est entretenu avec le commandant en chef des armées, Oleksandr Sirski, avec des responsables du renseignement ukrainien et aussi avec le chef de l'administration présidentielle, Andriy Yermak. Pour Kiev, malgré les nombreuses annonces américaines des derniers jours qui se calquent sur le discours de Moscou, pas question en tout cas d'accepter des projets de cessez-le-feu ou de paix qui seraient conclus dans le dos de l'Ukraine et à ses dépens.
On attend donc la conférence de presse entre les deux hommes, Emmanuel Chaz, en direct de Kiev.
C'est une journée de deuil en Israël.
Des combattants cagoulés et armés du Hamas ont exposé sur une scène à Khan Younes en public 4 cercueils noirs portant chacun la photo d'un des otages. Leurs dépouilles ont été récupérées par l'armée. Le convoi vient d'arriver au centre médico-légal de Tel Aviv. Une autopsie doit confirmer l'identité des corps, mais il y a très peu de doutes. Il s'agit de ceux d'Ariel et Kfir Bibas, âgés respectivement de 4 ans et de 8 mois et demi le jour de leur enlèvement, le 7 octobre 2023, ainsi que celui de leur mère, Shiri Bibas. Les habitants de Tel Aviv s'étaient réunis une nouvelle fois sur la place des otages ce matin pour assister au rapatriement. À leur côté, Kim Dostok, cette Australienne juive, a parcouru 14 000 kilomètres pour être là aujourd'hui par solidarité. Écoutez son témoignage.
Je me soucie du peuple israélien et je n'aime pas la façon dont il a été traité à travers le monde, et particulièrement le 7 octobre 2023. C'est la raison pour laquelle j'ai fait tout ce chemin depuis l'Australie, pour montrer mon soutien. Les images que j'ai vues aujourd'hui me brisent le cœur et m'émeuvent beaucoup. C'est un tel gâchis pour la vie, et je ne veux pas admettre que des personnes prennent des vies comme cela avec une telle cruauté. C'est un mépris absolu pour la vie, et pourtant les Israéliens débordent de vie et aiment la vie.
Des propos recueillis place des otages à Tel Aviv par Pierre Olivier. Aux États-Unis, à présent, Donald Trump continue ses offensives tous azimuts sur le plan intérieur. Le président américain a signé un décret pour identifier et couper les fonds fédéraux utilisés pour les migrants en situation irrégulière. La question de l'efficacité se pose toutefois, puisque selon le New York Times, les immigrés sans papier ne sont généralement pas éligibles aux prestations fédérales.
En revanche, en matière d'environnement, le bilan de Donald Trump est déjà tangible.
Un mois après son arrivée dans le bureau ovale, les coupes claires dans l'administration fédérale s'enchaînent. Le démantèlement est colossal dans le domaine de l'environnement. Les attaques contre les agences chargées de lutter contre les effets du réchauffement climatique sont constantes. Simon Rosé.
C'est l'une de ses décisions les plus emblématiques. Donald Trump, au premier jour de son mandat, actait la sortie une nouvelle fois des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Mais l'attaque est bien plus large. Subventions gelées, rapports enterrés, agences fédérales dans le collimateur. C'est le cas de l'EPA, dédié à la protection de l'environnement. 20 milliards de dollars de subventions en faveur du développement des énergies propres sont menacés. Et près de 500 de ces agents ont été licenciés ou placés en congé administratif. Il y a les décisions très concrètes et le mouvement de fond plus pernicieux. La mention du changement climatique a disparu du site internet de la Maison-Blanche. Les agences scientifiques passent en revue toutes les demandes de financement des chercheurs. Celles-ci ne doivent plus comprendre certains termes liés à la diversité ou au climat. Des attaques contre la science qui auront des conséquences nationales mais également internationales, tant certains organismes américains, à l'image de celui dédié à l'étude de l'atmosphère et des océans, font référence. La riposte s'organise. Des scientifiques essaient de sauvegarder le plus de données possible avant qu'elles ne soient mises hors ligne et une grande marche pour la science aura lieu le 7 mars prochain.
Dernière ligne droite avant les élections en Allemagne, un scrutin crucial dimanche. Les conservateurs sont en tête des sondages. L'extrême droite pourrait faire un score historique et arriver en deuxième position. Lors du dernier débat télévisé hier soir, le chef de la CDU, Friedrich Merz, a appelé les Allemands à lui donner un mandat fort pour réformer le pays et contrer l'ascension de l'AFD. En France, la Cour d'appel de Paris devait se prononcer aujourd'hui sur la libération de Georges Abdallah. Elle vient d'ajourner sa décision au 19 juin de source judiciaire. C'est l'un des plus anciens détenus dans le pays, ce militant libanais pro-palestinien condamné dans les années 80 pour complicité d'assassinat de diplomates américains et israéliens, est en prison depuis 40 ans.
En Australie, les disparités sont encore grandes entre les aborigènes et le reste de la population.
Leur espérance de vie reste inférieure d'environ 8 ans à celle des autres Australiens et le combat de ce peuple autochtone continue pour faire valoir ses droits. Une communauté aborigène réclame plus d'1 milliard de dollars de dommages et intérêts au gouvernement de l'État d'Australie-Occidentale, une des principales régions d'extraction de minerais de fer au monde. Des autorités locales accusées d'avoir autorisé une compagnie minière d'exploiter le sous-sol des terres dont ils sont propriétaires sans les consulter ni leur proposer des compensations. À Sydney, les explications de Grégory Pless.
Près de 300 sites archéologiques endommagés, tout comme 6 pistes racontant l'histoire et la cosmogonie des peuples aborigènes vivant dans cette région d'Australie depuis au moins 40 000 ans. C'est là l'étendue des dégâts qu'aurait causé l'exploitation depuis 2012 de la gigantesque mine de fer de Salomon, selon les plaignants. Mais ces derniers, plutôt que d'attaquer directement en justice la compagnie minière Fortescue, dont le propriétaire est la deuxième personne la plus riche d'Australie, ont décidé de s'en prendre au gouvernement d'Australie occidentale, celui qui a donné son feu vert à cette opération minière. Et la compensation qu'il réclame en justice est colossale, plus d'1 milliard de dollars américains, à la fois pour les dommages culturels provoqués par cette activité, mais aussi pour les pertes économiques engendrées. Les autorités, tout comme la compagnie minière, ne contestent pas le fond de l'affaire, seulement le montant réclamé. Ce qui laisse penser que ce dossier pourrait faire jurisprudence et inciter d'autres communautés aborigènes confrontées aux mêmes difficultés à également réclamer leur dû. Grégory Pless, Sydney, RFI.
Dans le journal de Karine Bellicha. Merci beaucoup Karine.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Honnêtement, je suis assez surprise de la vitesse à laquelle ils changent tout. Ça m'effraie un peu. Comme pour le golfe de l'Amérique, je ne savais pas quel était l'intérêt de changer le nom. Je trouvais ça assez drôle, mais ensuite il l'a vraiment fait.
Pas un jour ne passe sans que Donald Trump signe 1, 2, voire 3 décrets sans déclaration choc. Cela fait un mois aujourd'hui qu'il s'est installé à la Maison-Blanche et on décrypte aujourd'hui ses 30 premiers jours dans le bureau ovale avec notre invitée Françoise Coste. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Vous êtes historienne, professeure à l'Université Toulouse 2, spécialiste de la droite américaine et du Parti républicain. On vient d'entendre cette électrice de Donald Trump, surprise de la vitesse à laquelle le président américain prend ses décisions, cette manière de gouverner un mois après son retour à la Maison-Blanche. C'est de la folie ou au contraire une stratégie bien pensée ?
Oui,
C'est une stratégie bien pensée et en plus, elle avait été plutôt annoncée. Les électeurs de Donald Trump qui sont aujourd'hui surpris, j'ai envie de leur dire, mais il fallait écouter pendant la campagne. Hein. Là, pour le coup, on est d'accord ou pas d'accord avec Trump, mais tout était dit, c'est-à-dire qu'il avait déjà annoncé que dès le premier jour, il serait un dictateur, donc pour un seul jour, mais qu'il serait un dictateur pour aller vite, pour nettoyer Washington. À partir du mois d'août, quand Musk a rejoint la campagne, Musk est quasiment devenu le nouveau candidat à la vice-présidence, plutôt que Vance, il a évincé dès avant l'élection. Donc, l'idée que Musk allait nettoyer aussi le gouvernement, Trump en parlait. Trump s'en vantait avant les élections. Idem pour la question des expulsions d'immigrés clandestins. Aujourd'hui, on a beaucoup d'exemples dans la presse de gens qui se plaignent, qui disent « Mon voisin, mon cousin, ma femme était clandestine, elle a été arrêtée. J'ai pourtant voté pour Trump, je pensais qu'il ne viendrait pas arrêter ma femme. » Ben, si, il avait annoncé qu'il arrêterait les clandestins. Si votre famille est clandestine, eh ben, elle est ciblée par Trump.
C'est plusieurs dizaines de décrets signés en un mois à peine, c'est du jamais vu.
Alors, ça ressemble, il y a un parallèle historique qui est celui des 100 premiers jours de Franklin Roosevelt en 1932, quand il a été élu au milieu de la dépression économique et qu'il a lancé le New Deal. C'est lui qui est le premier à eu l'idée, qui a inventé le concept même des 100 jours, c'est-à-dire d'attaquer très vite, de ruer dans les brancards dès le début pour marquer les esprits et puis être le plus disruptif possible. Alors là, c'est pas 100 jours, c'est oui. Un mois, c'est 30. Et en plus, vous avez raison, il y a une grande différence, c'est que ce que Roosevelt avait fait en 32, c'était d'abord parce qu'on était dans une situation de crise économique historique, donc il y avait une urgence réelle. Là, ce n'est pas le cas, ce n'est pas du tout le même contexte. On est par exemple au plein emploi, par exemple, dans une situation de plein emploi aux États-Unis. Il y a eu bien sûr la crise de l'inflation, mais qui est terminée. Bon, donc, ce n'est pas comparable. Et puis, en plus, Roosevelt, il avait des immenses majorités au Congrès, dans les deux chambres, la Chambre des représentants et le Sénat, qui, certes, actaient comme un peu chambre d'enregistrement, c'est-à-dire la Maison-Blanche envoyait un projet de loi et dans la nuit, le Congrès le votait un peu les yeux fermés. Donc, il y avait cette idée un peu de brusquer la séparation des pouvoirs. Mais quand même, il y avait, de la part de Roosevelt, le souci de faire des projets de loi et de s'assurer que le Congrès les vote. Là, on n'est pas du tout dans cette optique-là, parce que vous avez raison, tout ce dont vous parlez, ce n'est pas des lois, c'est des décrets présidentiels signés à la Maison-Blanche dans une manière unilatérale, sans consulter le Congrès.
Françoise Coste, tous ces décrets, toutes ces déclarations de Donald Trump, est-ce que ce n'est pas aussi une manière de submerger l'opposition qui n'a même pas le temps de réagir au final ?
Oui, c'est très, 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 très malin.
Elle est
inexistante, l'opposition, que ce soit l'opposition des démocrates ou même de la presse, en réalité, le quatrième pouvoir aux États-Unis, c'est le cliché habituel. C'est-à-dire que, comme il va très vite, vous avez raison, ça fait que seulement un mois et à chaque jour, c'est pas une ou deux décisions, c'est plusieurs décisions, chacune spectaculaire, qui remet vraiment en cause des précédents que tout le monde croyait intouchables. Donc, il y a une telle... c'est un tel tsunami que l'opposition est à la fois, elle est sidérée et de l'ampleur des changements et de leur rapidité. Et parce qu'elle est sidérée, elle devient muette parce qu'elle ne sait pas par quel bout prendre le problème. Parce qu'en fait, c'est fascinant. Chaque décision de Trump, quasiment, si on la prenait de manière isolée, dans n'importe quelle autre administration avant lui, ça aurait été un immense scandale. Sauf que le champ médiatique, le temps médiatique, même l'attention, le degré d'attention que les gens portent à la politique, tout ça n'est pas compatible avec l'idée d'avoir 4 ou 5 Watergate par jour. Donc c'est trop, c'est too much, et donc ce qui serait des choses qui seraient peut-être légales, voire pire que Watergate, c'est noyé dans la masse, et ça passe. Et c'est vraiment, sur le plan politique, c'est à la fois inquiétant, mais brillant, objectivement brillant.
Vous parlez de l'égalité, une question se pose, hein, justement, c'est celle des contre-pouvoirs. Les juges, est-ce qu'ils ont encore les moyens de limiter ces actions, ces décisions ?
Alors c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, dans la Constitution américaine, il y a le pouvoir présidentiel, le pouvoir exécutif, et face à lui, il a deux contre-pouvoirs, le pouvoir législatif, le Congrès, et les tribunaux. le pouvoir judiciaire. On l'a dit, le Congrès, le pouvoir législatif, c'est pas un contre-pouvoir. De toute façon, au Sénat, les Républicains ont une belle majorité, une majorité plus serrée à la Chambre. Mais bon, le Congrès ne dit rien. Donc, tout l'espoir des anti-Trump se porte sur la troisième branche, le pouvoir judiciaire. En se disant, c'est le seul moyen de coincer Trump, de bloquer Trump. Sauf que, effectivement, il y a déjà eu des plaintes, vous avez raison. Donc, le mouvement est lancé, c'est-à-dire qu'on voit, par exemple, des fonctionnaires fédéraux qui ont été un peu renvoyés manu militari par Dodge et les sbires de Musk qui font le tour des ministères ou des agences et qui les remercient du jour au lendemain par un mail reçu le soir tard pour leur dire « vous venez pas demain matin ». Bon, donc il y a des fonctionnaires fédéraux qui ont porté plainte pour licenciement abusif. Parce qu'effectivement, on peut licencier des fonctionnaires fédéraux, mais il y a des conventions collectives qui existent, un cadre législatif qui n'est pas respecté. Mais sauf que, donc, pour l'instant, c'est des plaintes individuelles, dont plusieurs éparpillées dans le pays et dans chaque État. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas d'effet de masse, pour le coup. Et puis, le temps de la justice, il est très lent. C'est-à-dire qu'il va falloir enquêter, aller au procès, faire appel. Enfin, voilà. Donc, faire appel à des cours fédérales, peut-être un jour à la Cour suprême. Enfin, ça va prendre des mois, voire plus probablement des années. Et là, on est dans une course contre la montre. C'est-à-dire qu'il y a le temps de Trump, on l'a dit, qui va très, très vite. Et puis, le temps de la justice qui est très lent. Et ça aussi, il y a une incompatibilité qui donne l'avantage à Trump.
Françoise Coste, dernière question sûrement. Certains commencent à parler de crise constitutionnelle. Est-ce que, selon vous, on se dirige vers cette crise ?
Oui. Moi, je pense qu'on y est déjà. On y est déjà pour tout ce dont on a parlé, c'est-à-dire ne pas respecter le Congrès, ne pas respecter le cadre législatif existant. Il y a aussi le manque de transparence, c'est-à-dire que beaucoup de ces décisions, pas toutes, mais beaucoup de ces décisions passent par l'agence Dodge de Musk. Ce n'est pas une agence qui a été créée par le Congrès, personne ne connaît vraiment son statut légal. Elon Musk dans le système américain, les ministres, les responsables des agences fédérales doivent être auditionnés par le Sénat et puis leur nomination doit être validée par un vote du Sénat. Personne n'a validé la nomination de Musk, donc personne ne connaît son statut sur le plan légal ou juridique. Donc faire de telles, de prendre de telles décisions si radicales, si drastiques, qui sont quand même en train de réorganiser le gouvernement fédéral, sans respecter le cadre juridique et légal, ça, c'est effectivement une attaque directe contre la Constitution. Donc oui, on peut parler d'une crise constitutionnelle.
Merci beaucoup, Françoise Coste, d'avoir été l'invitée de RFI. Je rappelle que vous êtes historienne, professeure à l'Université Toulouse 2, spécialiste de la droite américaine et du Parti républicain.
RFI Midi, Alban Le Prince.
Donald Trump, un mois plus tard, donc. Vincent Souriau, c'est aussi pour parler avec la Russie et ses échanges musclés avec Volodymyr Zelensky.
Retournement complet de la relation entre Washington et l'Ukraine. Le patron de la Maison-Blanche assimile le président ukrainien à un dictateur. Donald Trump écarte les Européens des discussions. Il estime que la Russie a les cartes en main pour régler le conflit et que si la guerre a commencé, c'est la faute des Ukrainiens. Sidération sur le continent européen et jusqu'aux élus du Parti républicain aux États-Unis. Jusqu'ici, nous dit le Washington Post, ses élus étaient restés discrets. Cette fois, ils parlent. L'invasion, c'est Poutine. On ne peut pas mettre les deux hommes sur un pied d'égalité. Trump peut dire ce qu'il veut, mais on sait bien qui a initié ce conflit. Mais ça ne va pas plus loin que ça, remarque le Poste. Et cela montre bien à quel point les membres du Congrès, comme le disait Françoise Coste à l'instant, s'estiment dépourvus de contre-pouvoirs, y compris en matière de politique étrangère, alors qu'ils avaient fait preuve de beaucoup plus d'indépendance sur ces sujets par le passé.
Et parmi la nuée de décrets pris par la Maison-Blanche, la question migratoire toujours sur le devant de la scène.
Relaté, oui, par le New York Times, Donald Trump vient de signer un nouveau texte afin de limiter l'accès des sans-papiers aux subventions fédérales. La présidence américaine estime, sans donner de chiffres ou de détails, que des migrants sans carte de séjour profitent de certaines aides sociales et que l'administration Biden a dépensé des milliards de dollars pour leur venir en aide, utilisation impropre de l'argent public selon la nouvelle équipe gouvernementale.
Et dans la série des coupes budgétaires, coup de rabot annoncé au Pentagone.
Moins 8% de financement dans le secteur de la défense, soit 50 milliards de dollars qui disparaissent. C'est Politico qui a mis la main sur un mémo confidentiel. C'est un énorme coup de frein qui n'épargne pas d'ailleurs des investissements considérés jusqu'ici comme prioritaires. Par exemple, des sous-marins censés entrer en fonction en 2030, des systèmes satellitaires, de nouveaux avions. Mais surtout, le Pentagone serait amené à rappeler au moins une partie de ses soldats déployés en Europe et au Proche-Orient. Il s'agit, selon le ministère américain de la Défense, de s'aligner sur les priorités de la campagne de Donald Trump, sécurisation des frontières, mise au point d'un système antimissile comparable au dôme de fer israélien et fin des politiques d'inclusion et de diversité au sein de l'armée.
RFI Midi. Gonaïve, 90.5 FM.
Haïti, notre rendez-vous avec Franz Duval, comme chaque jeudi, rédacteur en chef du Nouvelliste, le plus vieux quotidien d'Haïti. Bonjour Franz.
Bonjour.
Port-au-Prince, de nouveau, et comme chaque jour, secoué par les affrontements entre la police et les groupes armés, les gangs qui avancent ces derniers jours sur plusieurs fronts de la capitale.
Effectivement, c'est la situation dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Il y a toujours des affrontements à Kinskoff, c'est au haut de la montagne. C'est Colline qui domine la région métropolitaine de Port-au-Prince. Il y a encore des affrontements. Le bilan de l'attaque de dimanche, c'est 8 morts. Des morts dans le camp des forces de l'ordre, mais aussi du côté de la population. Il y a aussi des attaques du côté de Carrefour-Feuille. C'est la sortie sud de Port-au-Prince. Là encore, c'est une bataille qui ne s'arrête pas. Ça fait plus de 2 ans depuis que les gangs systématiquement reviennent pour attaquer le quartier de Carrefour-Feuille. Et au cœur de Port-au-Prince, du côté de Nazon, il y a aussi des attaques depuis 3 jours. Les gangs brûlent des maisons, chassent les gens et continuent de faire des exactions contre la population civile. La police essaie de résister, mais à chaque fois la police arrive en pompier, les gangs souvent ont fini de faire leurs exactions.
Franz Duval, le gouvernement n'arrive pas à gagner cette guerre. Un cri de colère dans vos pages aujourd'hui. Incapacité, improvisation, bricolage politique au sommet de l'État, voilà ce qu'écrit votre journal.
Bon, définitivement, le gouvernement n'est pas outillé pour bien mener cette bataille. Et malheureusement, les forces de sécurité en paient le prix. Le Nouvelliste a pu consulter le budget de la République d'Haïti pour ces dernières années. Et on remarque qu'en fait, très peu d'argent a été dépensé pour équiper les forces de l'ordre. Et Haïti se remet à la communauté internationale pour équiper ses forces de sécurité. Et on vous donne ce qu'on vous donne et vous n'avez pas ce que vous n'avez pas acheté. Et Haïti a très peu dépensé de son argent. L'argent est là, les crédits budgétaires existent, mais malheureusement, la coordination, la réflexion, la stratégie pour mettre quelque chose en place n'existe pas. Et le gouvernement perd son temps. Le Nouvelliste exprime ce matin par la voix d'un ancien militaire. Et je dirais le cri qui est de rigueur, c'est que le ministère de la Défense est en train de nommer des directions générales dans des villes où l'armée n'existe pas. Mais on nomme des civils, on nomme des gens, on crée des emplois, malheureusement, qui ne sont pas directement lié à la sécurité, d'autant plus que l'armée embryonnaire n'existe qu'à Port-au-Prince, mais on nomme des directeurs départementaux dans les villes de province. C'est catastrophique.
La seule note positive, c'est le soutien américain. Les États-Unis continuent de fournir du matériel, aussi bien aux forces de police qu'à la mission internationale dirigée par le Kenya.
Effectivement, les États-Unis, depuis le mois de janvier, malgré le changement de gouvernement à Washington, continuent d'aider la mission, continuent d'aider les forces de police. Il y a des avions qui débarquent quasiment chaque semaine pour apporter de nouveaux équipements, pour apporter des munitions. Et la dernière livraison, c'était le 14 février. C'était 20 véhicules blindés pour la mission multinationale d'appui à la sécurité. Les États-Unis ne lâchent pas l'affaire. Mais c'est aux Haïtiens de se prendre en main, de coordonner et de vraiment avoir une stratégie pour aller vers le meilleur.
Merci Franz Duval. Et avant l'actu des Outre-mer, un mot de la saison des Oscars.
Oui, qui de mieux placé pour en parler que le Los Angeles Times. La cérémonie a lieu dans 10 jours et pour se mettre dans l'ambiance, le LA Times nous plonge dans les pires intrigues de cette compétition. En résumé, on y lit que la route vers le tapis rouge est très souvent semée de fautes directes, de calomnies, de recherches d'infos confidentielles et parfois de vilaines combines afin d'affaiblir, voire de saboter les chances des favoris aux Oscars. On y voit par exemple comment Harvey Weinstein, avant sa chute, recrutait Hillary Clinton pour présenter l'avant-première de ses films, payait des milliers de spots de pub ou organisait d'énormes fêtes avec le gratin du jury des Oscars. Cérémonie 2025 prévue dans 10 jours le dimanche 2 mars.
RFI Midi.
Et rebonjour Benoît Ferrand, c'est une grande première. La Martinique a signé ce jeudi un accord d'adhésion à la CARICOM, la communauté des Caraïbes.
Oui, rebonjour Alban. Créée en 1973, la CARICOM regroupe aujourd'hui 15 États membres, dont Haïti et le Suriname, et 6 membres associés, 7 désormais, après l'adhésion de la Martinique. Ça se passe à la Barbade. Ce sont de nouvelles opportunités de coopération régionale pour le département français, de nouvelles opportunités qui s'ouvrent, comme par exemple dans le domaine des produits pétroliers, comme l'explique le politologue Fred de Constant au micro de la première.
Sur un sujet sensible pour la Martinique, l'énergie, on peut imaginer un approvisionnement auprès de Trinidad en pétrole plutôt que sur les marchés mondiaux. On peut imaginer un approvisionnement en gaz naturel. Il était question, je ne sais pas si le projet est toujours en cours, mais de convertir nos centrales thermiques en centrales fonctionnant en gaz naturel. Il se trouve que Trinidad est un fournisseur de gaz, que le Guyana est en train d'en devenir un. Demain, le Suriname aussi produira du gaz naturel. Donc, on a une possibilité d'avoir des fournisseurs plus près de nous que ceux que nous avons actuellement.
La Martinique, donc, 7e membre associé de la CARICOM à compter d'aujourd'hui. Direction la Guadeloupe, avec encore et toujours des problèmes de desserte en eau. 110 000 foyers à sec hier soir, suite un peu à un mouvement de grève au sein du syndicat mixte de gestion et d'assainissement de l'eau, et un peu beaucoup à un certain nombre d'actes de malveillance, ce qui a conduit le préfet à activer le COD, Centre Opérationnel Départemental. Écoutez Xavier Lefort, préfet de la Guadeloupe, au micro de Thierry Philippe.
J'ai activé le COD pour gérer la crise, aider le SMGAG, reprendre le contrôle des différentes usines, les remettre en production. C'est ce qu'on a fait par exemple sur l'usine de Déhauteur. Alors, c'est pas tout à fait l'usine de Déhauteur, c'est le captage de l'Espérance sur laquelle on avait volé, détruit et dégradé le matériel de pompage. Ça se fait avec le concours et l'accompagnement des forces de l'ordre, parce que même les choses sont suffisamment graves. Moi, je suis en charge de la sécurité de la population et je ne peux pas me permettre effectivement qu'on remette en danger la sécurité et la santé des Guadeloupéens. Donc avec les forces de l'ordre, on s'assure avec le concours évidemment des agents non grévistes, et je les remercie, qui sont sur le terrain pour rétablir la situation de l'eau dans les usines, trouver la panne, la réparer. Alors, ils le font avec courage, avec détermination, parce que dans une situation de conflit social, c'est jamais tout à fait facile. J'utiliserai tous les moyens qui sont à ma possession pour que ce rétablissement de la distribution de l'eau potable se fasse le plus rapidement possible, y compris la réquisition.
Xavier Lefort, le préfet de la Guadeloupe. Bon après-midi, Alban. À demain.
Bon après-midi à vous aussi, Benoît Ferrand. On termine en musique avec le Brésilien Seu Jorge et Peu Murray. Vous êtes bien sur RFI. Très bon après-midi à vous.
Oh, meu bem. Hoje é sexta-feira. Final de semana chegou, sábado no galpão esteja. Se prepare para bagulho de vibe, vibe. De cores nos amores, a vida dançando em felicidade. De cores nos tambores, reinando a fé pela paz pela nossa cidade. Amores, a vida dançando em felicidade. Em cores, nos tambores, reinando a fé pela paz, pela nossa cidade. Se libera, pode chegar. Aqui são 7 portas, pode bater, pode entrar. Se liberta, pode namorar. 7 prazeres, 7 amores, pode até se apaixonar, yeah.
Seu Jorge, le Brésilien, qui sera les 1er et 2 avril prochains à Paris en concert au Grand Rex.
Oh, meu bem, hoje é sexta-feira, final de semana chegou, sábado no galpão esteja. Se prepare pra good vibe, vibe. De cores nos amores.
bientôt la fin des RFI Midi, 14h30, la suite de vos programmes. Nos amores, a vida dançando em felicidade.